Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Chers amis, bonjour. La saison dernière, nous avions évoqué, pour finir la saison, nous avions parlé d'une sainte, Catherine de Francheville. En fait, c'est une bienheureuse, hein, je dis une sainte, mais c'est une bienheureuse, Catherine de Francheville. Et cette année, cette saison, nous allons commencer avec un saint qui est malheureusement trop peu connu, dont la tradition, ou plutôt devrais-je dire les traditions, se complètent les unes les autres, parfois se contredisent, et j'allais dire se concrétisent parce que c'est un saint du concret. C'est un saint du concret, c'est un saint de la résilience. C'est un saint avec lequel on découvre des chutes, des relèvements, des espoirs, des espérances, des déceptions, des trahisons, des grandes amitiés, des amours qui s'en vont très très loin et qui s'écrasent tout aussi puissamment, fortement, lamentablement, peut-être devrait-on dire, même de manière affligeante parfois. C'est un saint marqué par le travail et marqué par le découragement, voire finalement une certaine assédie, peut-être une certaine, je ne sais pas si le mot paresse convient, mais à certains moments un manque réel d'énergie. Et c'est un saint qui emporte très très loin, très très loin. C'est un saint qui a quelque chose d'intemporel. C'est pourquoi il y a toutes ces traditions diverses qui sont attachées à ce saint, traditions que l'on découvre si on a vraiment le goût de la recherche et peut-être une certaine chance, peut-être guidée par la providence. Parce que ce n'est pas un saint très connu, c'est le cas d'ailleurs de la plupart des saints qui ne sont pas très connus. Je travaille actuellement pour une conférence sur Don Dolindo, qui n'est pas encore saint, mais qui est très connu en Italie, mais en dehors de l'Italie, ce n'est pas le plus connu, et pourtant c'est un saint très fameux, hein, donc ça n'a rien d'exceptionnel qu'un saint fameux, extraordinaire, puisque c'est un saint, justement, ne soit pas d'une célébrité auguste. Hein, et donc, voilà. Alors, saint Hugo d'Amvelie est né le 17 novembre. Il est né le 17 novembre, alors, selon les traditions, à 13h45 ou à 14h15. Ces traditions sont dues à l'astrologie, c'est-à-dire, est-ce que l'on croit ou pas à l'astrologie ? Est-ce que l'on veut faire dire quelque chose aux planètes ou pas ? Et voilà que l'on plonge d'emblée dans le monde mystérieux et obscur et en même temps lumineuse et chatoyante d'une époque que nous ne connaissons plus aujourd'hui, hein, mais d'une époque où l'importance des astres révélée aux hommes sur Terre la présence lumineuse d'un esprit ordonnateur, et tout cela avant que certaines civilisations qui ne l'avaient pas connu découvrent ce Dieu unique. Mais enfin, en attendant, c'était le 17 novembre à Montpuy-la-Roum que naissait dans les jaillissements de cris, des pleurs, des froids, les poings serrés, cette petite tête tellement blonde, il en avait les cheveux quasiment blancs déjà à la naissance, ce petit être vagissant qui allait faire à la fois la joie, la fierté et le désespoir de ses parents et attirer sur lui une haine imméritée alors qu'il était tellement digne du plus grand amour qui soit, et jusqu'à ce que finalement il s'aperçoive qu'il était un homme sans intérêt. Et c'est à partir de là d'ailleurs que prendra son essor cette sainteté qui longtemps a été un potentiel insuffisamment exploité, voire pas du tout. Et son père était militaire, il était dans l'infanterie, et voilà, donc notre petit Saint-Hugo d'Amvilly, puisque c'est son nom, passait sa petite enfance en garnison avec son papa, sa maman, ses deux frères et sa sœur. Son père était, pouvait être passablement violent, il avait des sujets à de grandes colères, et il était aussi parfois une tendance à taquiner, parfois un peu cruellement, souvent avec l'idée de déranger, de choquer, de heurter les gens, et développer des attitudes qui ont donné à Saint-Hugo d'Amvilly la sensation d'être différent des autres. Voilà, différent des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas possible de se sentir comme tout le monde, avec le père qu'il avait, et d'une part, et d'autre part, il vivait dans une ambiance tellement insécurisante, que quand il était en société, les autres forcément ne vivaient pas la même chose, donc il avait facilement l'impression d'être incompris parce que tout le monde s'amusait et que lui, il n'avait pas forcément trop le cœur à rire. Ajoutez à cela que c'est ce qu'on appelle maintenant un haut potentiel, on appelle ça un enfant précoce, un surdoué, un ceci, un cela, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il avait des centres d'intérêt qui n'étaient pas ceux de son âge, puisque à 10 ans, il lisait déjà des livres de philosophie. Il écrivait déjà des poèmes, des romans, il avait une vie imaginaire, une vie intellectuelle extrêmement dense. Il avait 13 ans quand il s'est mis à apprendre l'anglais et l'arabe. Forcément, il avait, peu de contact avec les enfants de son âge, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes préoccupations d'eux. J'ai bien compris en lisant tous les documents que j'ai pu découvrir à son propos. Les jeux des autres non seulement ne l'intéressaient pas, mais il y avait quelque chose qui le laissait. On peut dire que ça ne l'intéressait pas. Alors il a quand même essayé, il a quand même joué un peu aux billes, il a quand même joué un peu aux osselets. À l'époque, il y avait ces jeux, avec des os de lapin, des jointures d'os de lapin, et les enfants assis sur le sol, au milieu de la terre et de l'herbe et des petits cailloux, on les voyait assis et pendant un quart d'heure, 20 minutes, faire des parties d'osselets échevelés, à lancer un osselet en l'air, à ramasser deux ou trois osselets qu'il y avait par terre, avant de récupérer celui qu'ils avaient lancé en l'air et qui retombait dans leurs mains ouvertes où se trouvaient déjà les deux ou trois osselets ou quatre osselets qu'ils avaient ramassés par terre. Son enfance sera aussi beaucoup avec des bagarres, mais ça n'a rien d'extraordinaire, puisque lorsqu'il était enfant, c'était quelque chose qui arrivait très souvent, pas des bagarres bien dangereuses, pas des bagarres bien méchantes, mais enfin, tout de même, c'est un point important, parce que deux choses, c'est-à-dire que avant de se battre pour que tous les autres enfants soient de son côté, parce qu'il y avait deux enfants qui se battaient, mais il y avait les autres qui se mettaient autour pour regarder et encourager l'un ou l'autre des combattants, lui, il faisait de l'humour. Donc en fait, tout le monde riait de son humour, et donc tout le monde était de son côté, et donc forcément son adversaire se sentait un peu seul. Après, au moment de se battre, il était du genre à envoyer ses poings à droite et à gauche sans trop viser, et puis, donc voilà, il pouvait toucher, atteindre son adversaire ou ne pas l'atteindre, mais quand il visait, par contre, ça pouvait faire très très mal, puisque généralement c'était avec le pied, et il avait coutume de viser, en cas de défaite, les testicules. Donc en fait, il ne perdait pas les combats, puisque forcément dans ces conditions, on a vite fait de faire partir l'autre, non pas en courant parce qu'il ne peut plus courir, mais il saute en l'air en se tenant les choses de la vie entre les mains et en appelant sa maman au secours, maman qui évidemment n'est pas là. C'est un un enfant qui a connu des épisodes extrêmement difficiles avec un père donc très coléreux qui pouvait briser les meubles, briser la vaisselle, faire des remarques choquantes comme je l'ai déjà dit. Hein. Donc il a vécu vraiment dans une ambiance insécurisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Une ambiance très insécurisante où il se réfugiait, lui, dans l'imaginaire, dans la créativité, dans la lecture, un grand, grand, grand lecteur. Quand il était au lit, quand il s'allongeait, alors il s'allongeait forcément la nuit, bien sûr, mais parfois la journée, s'il en avait l'occasion, et alors il avait l'habitude donc de se coucher sur le dos et de tourner sa tête de droite et de gauche comme cela et tout en imaginant des chansons ou s'il entendait quelqu'un chanter, eh bien il s'imaginait que c'était lui en train de chanter, enfin voilà, des choses comme cela, hein, c'est il était très très marqué par ce monde de l'imaginaire, vraiment. C'est quelque chose d'ailleurs qui sera utile plus tard, bien plus tard, bien plus tard. Nous le découvrirons, puisque ce fameux saint a été aussi un très grand artiste, un très très grand artiste que l'on redécouvre d'ailleurs actuellement. Là, j'ai trouvé des écoles de pensée qui s'intéressent énormément à ce saint et qui découvrent combien sa créativité était riche, était puissante, était intéressante, était novatrice même. Et en fait, il écrivait à 13 ans des choses que l'on aurait cru écrites par un homme de 40 ans. Et d'ailleurs, enfant, il avait des attitudes souvent de personnes âgées. Il marchait les mains croisées derrière le dos, par exemple. Il parlait en levant l'index. Il employait des expressions comme « disons que ». À l'âge de 10 ans, voyez-vous, c'est un saint, mais c'est le saint de la résilience, c'est un saint que nous allons découvrir qui est en fait plein de bonnes surprises, qui est joyeux, et puis qui est des côtés, un petit peu inattendus, voire franchement révolutionnaires, quoi.